Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en France, mardi soir 22 février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. L'Iran et le Qatar se sont prononcés en faveur du développement de la coopération bilatérale. Poutine ordonne que l'armée russe garantisse la paix dans les républiques de Donetsk et Lugansk. La présence des forces américaines en Syrie est illégale, a martelé le vice-ministre russe des Affaires étrangères. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président de la République islamique d'Iran et l'émirat du Qatar ont souligné lors de la réunion des délégations de haut rang des deux pays que les responsables exécutifs et les présidents de la commission mixte de coopération économique devraient fixer des objectifs spécifiques pour élargir les interactions et la coopération entre les deux pays. S'exprimant lundi lors de la réunion des délégations de haut rang de la République islamique d'Iran et de l'émirat du Qatar, Ebrahim Raisi a déclaré que les points communs culturels et religieux ont toujours été à la base du renforcement des relations entre les deux nations et gouvernements, tout en ajoutant que le niveau des relations Téhéran de Doha doit se développer dans tous les domaines, notamment économiques et politiques. Déterminer des objectifs spécifiques et le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs ira dans le sens de l'élargissement des interactions bilatérales et de la poursuite diligente de ces objectifs par les responsables concernés des deux pays, en particulier les chefs des commissions conjointes de coopération économique de l'Iran et du Qatar, a-t-il souligné. Déclarant que le renforcement des relations bilatérales entre l'Iran et le Qatar devrait être étendu à la coopération régionale et au jeu de rôle international, le président Raisi a ajouté que la République islamique d'Iran a toujours été un voisin sincère et un véritable ami de tous les pays de la région, y compris le Qatar. Et l'exemple le plus évident en est le soutien constant de l'Iran aux droits du peuple palestinien opprimé. Rappelant la solution de la République islamique d'Iran à la question palestinienne avec la participation de Palestiniens de divers horizons, Raisi a déclaré « Si l'Oumma islamique est unie, les droits des Palestiniens seront respectés et l'oppression des sionistes prendront phare. » L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a évoqué l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les réunions de la commission conjointe de coopération économique Iran-Qatar au cours des deux dernières années, en soulignant que le Qatar est déterminé à développer ses relations avec l'Iran sur la base d'une interaction historique et profondément enracinée entre les deux nations, et nous ne permettrons plus à aucun problème, y compris la pandémie de COVID-19, d'entraver l'avancement de cet objectif. Les négociations avec les États-Unis ne sont pas à l'ordre du jour de Téhéran. Les négociations avec les États-Unis sur un éventuel accord nucléaire ne sont pas à l'ordre du jour des négociateurs iraniens à Vienne, capitale autrichienne, a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, l'amiral Ali Shamkhani. Des pourparlers de Vienne sont en cours entre l'Iran, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie, plus l'Allemagne et le représentant de l'Union européenne. Et cette voie restera inchangée jusqu'à ce qu'un résultat soit atteint, a souligné Ali Shamkhani. Le président russe de Vladimir Poutine a chargé le ministère de la Défense d'assurer le maintien de la paix dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, reconnues ce 21 février par Moscou. Le président russe a chargé le ministère de la Défense d'assurer le maintien de la paix dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, reconnues ce 21 février par Moscou. Suite à la demande du dirigeant de la République populaire de Lugansk, le ministère russe de la Défense doit assurer que les forces armées russes garantissent le maintien de la paix sur le territoire de la République, indique le paragraphe 4 du décret sur en fait ce sujet. Le président a en outre chargé le ministère russe des Affaires étrangères d'organiser des pourparlers avec les deux républiques du Donbass et sur l'établissement des relations diplomatiques, l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle. Les décrets reconnaissant les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comme État souverain ont été publiés ce 21 février au soir. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains, Mikhail Bogdanov, a affirmé que la formule d'Astana restera la plus efficace pour le règlement de la crise en Syrie. Dans des déclarations aux journalistes lors de la 11e conférence du club international Valdaï sur le Moyen-Orient pour et rapportée par Sputnik, Bogdanov a assuré que la présence des forces américaines en Syrie est illégale, ajoutant qu'il est évident que leur bataille là-bas n'est pas contre le terrorisme. D'autre part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé dans son allocution devant les participants à la conférence qui a été lue par Bogdanov que le concept russe de la sécurité dans le Golfe Persique comprend la coordination dans le domaine militaire et politique entre les pays de la région. Au Mali, le Conseil national de transition a adopté à l'unanimité de ses 120 membres la nouvelle charte de transition. La charte fixe la durée de transition entre des 6 mois et 5 ans, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation de décembre dernier. Par ailleurs, elle augmente les membres de la CNT qui passe de 120 et à 147 membres, un nombre équivalent à ceux des assemblées nationales mises en place. La nouvelle charte de la transition supprime en outre le poste de vice-président et interdit au président de la transition de faire acte de candidature au prochain scrutin devant marquer le retour du Mali à l'ordre constitutionnel. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. On va vous proposer dans quelques instants notre commentaire politique. L'Iran a remporté 2 champs de bataille contre le terrorisme et la campagne de pression économique maximale, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. En visite à Doha, le président iranien Ebrahim Raisi, tout en soulignant que la République islamique d'Iran a remporté 2 champs de bataille contre le terrorisme, une campagne de pression économique maximale, a insisté que les États-Unis devaient prouver leur volonté de lever les principales sanctions. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'émir du Qatar, Ebrahim Raisi a remercié l'invitation de l'émir du Qatar et a déclaré « J'en suis rendu à Doha avec les 2 objectifs de développer les relations bilatérales entre l'Iran et le Qatar et de participer au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz ». Se référant à sa rencontre avec l'émir du Qatar, le président Raisi a ajouté « Lors de cette réunion, nous avons convenu que les 2 pays bénéficieront des capacités et des opportunités existantes pour élargir la coopération et approfondir les relations dans divers domaines. Les 2 parties ont décidé, a-t-il souligné, de prendre des mesures sérieuses et nouvelles pour renforcer les relations en augmentant leur coopération et en diversifiant les domaines de coopération compte tenu de la proximité territoriale et du voisinage des intérêts et avantages économiques communs. Nous avons convenu d'intensifier sérieusement notre coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des infrastructures, du commerce, de l'investissement, de la sécurité alimentaire, de la santé et de la culture, a-t-il déclaré. Concernant la coopération de l'Iran avec le Qatar pour accueillir la Coupe du Monde, de la FIFA. Raisi a déclaré « L'Iran est suffisamment préparé pour contribuer à une meilleure tenue de la Coupe du Monde que le Qatar accueille ». Se référant à la coopération entre les 2 pays dans divers domaines, le président Raisi a déclaré « Les avantages uniques de l'Iran dans divers domaines, notamment géographiques, environnementaux, de transit, économiques, scientifiques, en particulier les ressources humaines, jeunes et instruites, garantissent la contribution de toute coopération bilatérale ou multilatérale à la croissance économique et à la sécurité régionale. » Le président Raisi a souligné « La République islamique d'Iran souhaite d'une augmentation significative des relations régionales et ce voyage ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre l'Iran et le Qatar. Bien sûr, ce voyage, considéré comme l'une des étapes transformatrices dans les régions avec les pays voisins, en particulier les voisins de la région du Golfe Persique, a précisé le président Raisi avant de souligner le niveau de coopération entre les pays de la région n'est pas à la hauteur des énormes capacités disponibles. Et la République islamique d'Iran cherche à contribuer au renforcement et à la promotion des relations régionales dans le cadre de la politique de bon voisinage. Nous recherchions un changement dans les relations régionales dans le sens de l'interaction, de la coopération et de la convergence. La République islamique d'Iran a prouvé qu'elle défendait toujours les intérêts des pays et nations indépendants. Nous avons prouvé notre amitié à tous les pays de la région dans les moments difficiles. De nombreux pays de la région ont pris conscience de ce fait et ont des expériences similaires dans ce domaine, a conclu le président iranien Ebrahim Raisi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors la mobilisation anti-française au Mali se poursuit à travers des manifestations d'envergure à travers tout le pays, exigeant bien sûr le retrait immédiat et total des troupes françaises du Mali. Alors cela fait 9 ans que l'occupation existe des Français au Mali. Une occupation qui se traduit par des couteaux plantés sur le dos des Maliens, un couteau du terrorisme. donc pillant la richesse de ce pays. Est-ce que ce retrait français va compenser des milliers de morts et la richesse volée aux Maliens? Sans doute pas. Les Français vont partir, sans doute, très humiliés. Mais selon beaucoup d'experts politiques, ce retrait sera la fin de France-Afrique. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est un mensonge éhonté que de prétendre qu'il n'y a eu au Mali ce samedi et à l'occasion d'une manif célébrant l'expulsion de Barkhane que quelques centaines de Maliens. Mais la puissance d'occupation ne croyait jamais avoir un jour à prendre ses clics et ses claques et être forcée à se barrer humiliée des territoires maliens. RFI écrit, ce samedi, des centaines, voire quelques milliers de personnes se sont réunies à Bamako pour manifester leur joie suite au départ annoncé de troupes françaises du Mali. Ce rassemblement s'est tenu à l'appel du collectif Yerevan le Debout sur les remparts, qui réclame depuis sa création il y a 3 ans le retrait de l'armée française du pays. On comprend parfaitement que les journalistes de RFI aient à revoir à la baisse le nombre des manifestants pour chercher à limiter l'ampleur de la défaite que Barkhane a subie au Mali face à une population soudée qui a réussi à mettre à l'échec le projet du démembrement du pays, et ce au prix du sang versé des milliers de Maliens dont personne ne parle. Mais avouons que le lecteur a du mal à comprendre tout de suite cette tentative de collectiviser la joie que chaque Malien patriote sent au plus profond de son être depuis que le gouvernement a exigé à la force d'occupation, responsable des milliers de crimes de guerre, de quitter immédiatement le Mali, et ce avec en toile de fond une remise en question nette des accords dits de défense imposés par la France au Mali. D'où ce média mensonge qui prétend qu'il y avait moins de manifestants maliens que prévu. Face à une scène, une foule de manifestants remplit le versant nord de la place de l'Indépendance pour une mobilisation moins importante qu'annoncée. Et puis cette autre tromperie que le journaliste de RFI fait dire à une centaine de manifestants qui affirment « Perpétue Uro-Ogon, enseignante, fustige le peu de résultats de l'intervention Barkhane. Elle est amère et pressée de voir les contingents français quitter son pays. » La France nous a dessous. Dès aujourd'hui, ils n'ont qu'à plier bagages. On a assez avec cette armée française. On n'a pas besoin de la France. Et RFI de poursuivre, la Russie, tout comme son drapeau présent dans l'Assemblée, est brandie comme le nouvel allié. Placé sous le signe de la victoire, ce meeting se veut une célébration. RFI affirme qu'en 2012, quand la France venait libérer Kona, on était tellement content qu'on a même baptisé des enfants au nom de François Hollande. Mais si tu vois aujourd'hui que ce même peuple se lève pour dire « Allez-y », ça veut dire que la France a failli. En effet, ce que RFI tente de faire, c'est ni plus ni moins d'effacer des années d'occupation. Et comment? Eh bien, jamais le peuple malien n'a demandé à ce que la France vienne occuper son pays. Jamais les terroristes ni la violence n'existaient avant que la France vienne occuper le nord du Mali et chercher via l'accord d'Alger à amputer le nord du reste du pays. La France n'a donc pas déçu. Elle a fait son projet de déstabiliser le Mali et au-delà le Sahel. Ce qui veut dire que cette expulsion, si elle est aujourd'hui célébrée et que la France cherche à en faire endosser la responsabilité à la Russie, comme si les Maliens n'avaient pas le droit souverain de choisir avec qui s'allier, elle pourrait demain déboucher sur d'autres choses. Plainte contre la France pour plus de 8 ans de crimes de guerre et la responsabilité de la mort des milliers de Maliens dont aucune instance des droits de l'homme ne se soucie guère.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité que je crois connaître, M. Michel, je crois.
Oui, justement, effectivement, il s'agit de M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, bonjour surtout à tous nos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont très fidèles de cette émission.
C'est grâce à vous un peu, M. Luc Michel. Alors ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier concernant justement ces manifestations d'envergure à travers tout le pays. M. Pierre Dortiguier, est-ce qu'on peut dire que tous les Maliens, presque 100% des Maliens ont participé à ces manifestations exprimant leur joie du départ des troupes françaises, un retrait humiliant, n'est-ce pas, pour la France?
Oui, c'est un effet humiliant. C'est le signe d'une incapacité quand même au premier plan militaire, même s'il y a des des arrière-pensées derrière ou des dessins. Comment justifier aux yeux même de l'opinion publique française, par exemple, tout autant que malienne et africaine, qu'une troupe ne réussisse pas à éliminer des terroristes au bout de 8 ans. Bon, c'est quelque chose qui est... je ne dis pas qu'il y a une complicité, forcément, mais il y a quand même un lien. C'est-à-dire qu'on sent que la présence des terroristes était aussi un argument, voyez-vous, de maintien d'une troupe française qui soit là pour pouvoir peser, disons, sur l'avenir politique du Mali. Je dirais que le reportage montre bien cette déception de l'opinion malienne. Il ne s'agissait pas d'un préjugé contre les Français au départ, puisqu'il fait allusion au nom de François Hollande, etc., tout cela. Bon, il y a simplement un constat de la population et des élites maliennes que, paradoxalement, disons, la présence française, loin d'écraser le terrorisme, c'est en réalité reposer sur son maintien pour maintenir ses forces, mais ne pas les utiliser. Car bien sûr, nous avons eu, je crois, on déplore, je crois, 53 morts. Bon. Mais enfin, même vis-à-vis de l'armée française, c'est très très difficile, quand même, vis-à-vis de nos soldats, de justifier quand même une telle impéritie, je veux dire, j'entends par impéritie, un tel manque d'expérience. Quel a été donc le but de cette intervention militaire? Est-ce, comme naturellement il est dit, et ce n'est pas faux, de maintenir une sorte de France-Afrique? Maintenant, il y a une question peut-être qu'il faudrait débattre, dont il faudrait débattre. Est-ce que ce départ qui est annoncé maintenant, le définitif des Français, est-ce qu'il n'est pas une conséquence, par exemple, aussi, disons, de ce que M. Macron a discuté à Moscou, par exemple, avec M. Poutine? Je crois qu'il y a quand même, à propos de l'Ukraine, je crois qu'il y a non seulement l'entretien sur l'Ukraine, mais qu'également la question du Mali a été posée. Je pense qu'il y a des accords, disons, non pas secrets, mais enfin discrets, et que nous devons nous attendre quand même à un retrait définitif de l'armée française.
Oui. Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons entendu les propos de M. Pierre d'Ortiguier. Comment vous traduisez cette joie de presque 100% des Maliens qui ont participé à ces manifestations, je vous prie?
Je voudrais tout d'abord dire une chose, c'est que la soi-disant accord qui aurait été fait entre le Mali et l'Ukraine, c'est-à-dire que le Mali aurait été changé avec les Russes par l'Ukraine, c'est un mensonge de la propagande du Quai d'Orsay. Ça ne profite qu'aux Français. Il n'y a pas eu de tels accords. Et d'ailleurs, à Moscou même, Macron ne s'était pas encore retiré, que le Kremlin précisait qu'aucun accord n'avait été conclu avec la France. Il ne faut pas que les mensonges du Quai d'Orsay soient avalisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que le but des guerres coloniales depuis la guerre d'Algérie, c'était la conquête des esprits et des cœurs. Les Français ont perdu les esprits, ils ont perdu les cœurs. Les Maliens se réjouissent du départ des Français, pour lequel ils se sont mobilisés par milliers d'artifices de la propagande. C'est de faire croire que la population ne serait pas en joie. En réalité, la France, en arrivant au Mali, elle avait un projet. Ce projet, c'était la fameuse géostratégie des généraux américains, des généraux français, ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. À la suite de la destruction libyenne en 2011, la France et les Américains ont tenté un scénario à la libyenne dans deux pays voisins, la Centrafrique et le Mali. Le vrai texte de cette géostratégie du chaos, c'était la guerre contre le terrorisme. En réalité, le terrorisme n'est pas l'ennemi des Occidentaux. Il est un vrai texte à leur arrivée militaire. Pendant 8 années de guerre, les Français ont eu 53 morts. Quand l'on compare avec le Vietnam entre 1960 et 1968, là, dans une véritable guerre et non pas dans une comédie, il y a eu plus de 100 000 morts. Et face à ces 53 morts,
c'est 53 militaires français. Il y a eu pendant les 8 années de l'intervention française au Mali, qui viennent de se terminer, il y a eu plus de 10 000 civils morts maliens, tués par la plupart, pas seulement par le terrorisme, mais surtout par l'armée française d'occupation elle-même, notamment par la sale guerre des drones, qui, comme en Pakistan et en Afghanistan, est une guerre menée contre des populations civiles. La France, elle part honteuse et elle essaye de faire croire, évidemment, qu'elle ne part pas sous les vivants de la population. C'est totalement faux. Le soulèvement du Mali, il a commencé par une pétition il y a 2 ans. Elle s'intitule « Vladimir Poutine vient sauver le Mali ». Elle avait recueilli 8 millions de signatures maliennes. C'est cela la réalité que l'on veut dissimuler à Paris. Il y a tous les médias français, notamment ce que j'appelle le moniteur de la France-Afrique, Jeune Afrique. Il lance évidemment toute une série d'accusations, notamment contre le fantomatique groupe Wagner, qui n'existe que dans la propagande occidentale. Ce jour, Jeune Afrique publie au nouveau, après avoir fait un dossier similaire sur la Centrafrique, elle publie un dossier sur Wagner au Mali. C'est dérisoire. Les mensonges de la propagande, évidemment, ne dissimulent pas la déroute néocoloniale de l'armée française.
Absolument. Alors, Pierre d'Ortiguier, M. Luc Michel a très bien défini la situation au Mali et bien sûr ces manifestations d'envergure qui se traduisent par la joie des Maliens. Mais la France a tout fait pour neutraliser militairement et économiquement ce pays depuis presque 9 ans. Des milliers de morts chez les Maliens, des dizaines de morts chez les Français, pillant la richesse de ce pays. Est-ce que ce retrait va tout de même pas compenser la richesse volée aux Maliens, tout de même, n'est-ce pas? Cette humiliation est suffisante pour les Maliens, cette humiliation des Français?
Non, ce ne sera pas. Bien sûr que le retrait, comme vous le dites si bien, ne pourra pas compenser ces maux infligés au Mali. Je crois que ce que les Français subissent maintenant, ce que nous subissons, disons, puisque c'est que c'est le résultat, bien sûr, la politique de France-Afrique, que connaît très bien M. Louis Michel, mais aussi, c'est une conséquence, disons, une sorte de, je dirais, de justice, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il faut bien l'avouer, de notre intervention contre la Libye. Je crois que vous avez fait allusion, M. Michel y a fait allusion, en effet, nous payons très très cher cette désorganisation de l'Afrique. Nous avons essayé, disons, de maintenir cette France-Afrique ancienne, malgré ce qu'on pourrait appeler le vent de l'histoire, malgré, disons, cet essai qui était autant matériel que financier, disons, surtout financier, de faire une monnaie forte en Afrique, qui était, disons, impulsée par le colonel Kadhafi, bon, que nous avons fait éliminer, disons, dans des conditions atroces. Je crois que nous payons cela, et que je pense même que l'intervention libyenne, il y a de quelques années, mais quand même récente du point de vue historique, a certainement impressionné, disons, ou détaché la population de ce qu'on pourrait appeler le protectorat français. Bien sûr, il y avait des choses qui étaient très mauvaises, il y avait un esprit d'exploitation des lieux, etc. Mais s'il y avait encore un prestige de la France, tenant à différentes raisons, différentes raisons matérielles autant que spirituelles. Mais là, tout ceci s'est trouvé balayé. Je prends acte de ce que dit M. Michel, justement, sur la propagande, par exemple, sur le groupe Wagner et autres. Moi-même, disons, je m'y suis laissé prendre parce que nous lisons la presse ici, voyez-vous. Nous sommes, comme on peut dire, enveloppés par une sorte de brouillard. Les Français ne se rendent pas très bien compte, à mon avis, encore ici, là, je parle de la métropole, de la situation en Afrique. Ceci est, disons, je ne dis pas entièrement caché, mais transformé, déformé, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Mais en tout cas, c'est un événement aussi important, mais disons en notre défaveur, que l'a été justement la chute du colonel Kadhafi en Libye. Voyez-vous, là, nous recueillons les monnaies de la pièce. Voyez, c'est, on peut dire qu'il y a une justice historique, et si si mes compatriotes se plaignent de la situation, il faut qu'ils s'en prennent aussi à la politique de Sarkozy, etc. Bien sûr qu'il n'était pas une initiation, c'était pas une initiative, disons. Il y avait cette politique de France-Afrique, de Focard, etc., que M. Luc Michel et nos auditeurs connaissent fort bien. Mais disons que les conséquences, en tout cas, seront très importantes, en France même, sur le plan politique, je dirais même... Je n'ose pas dire sur le plan social, parce que c'est bien déterminé, mais disons qu'il y aura une désaffection chez nous envers les autorités. Cette désaffection, et même un certain, peut-être, je conclurai là-dessus, une certaine acrimonie, disons, contre venant de la part de l'armée. Il est possible que une partie de l'armée n'accepte pas, ce qu'on pourrait appeler la défaite.
Oui. Monsieur Luc Michel, comment, à votre tour, vous définissez les conséquences pour la France de ce retrait? Tout de même, pas, cela ne va pas compenser la richesse volée aux Maliens pendant ces 9 ans. C'est des milliers de morts. Juste une humiliation, l'indignation des Africains à l'égard de la France, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, Monsieur Luc Michel?
Nous avons connu en Afrique des décennies de pillage économique, par exemple Paris, qui ne produit pas une once d'uranium sur le sol français, elle exporte des centrales nucléaires avec Areva, cet uranium, il est volé au Mali et au Niger. Mais à partir de... Nous avons donc vu des décennies d'expéditions militaires et de brutalité occidentale. Ce qu'a été la meilleure exemplation, la meilleure illustration, ça a été la destruction de la Libye. Mais à partir de 2015, il y a un double phénomène. D'une part, il y a l'arrivée du bloc de l'Est en Afrique, les Russes, mais aussi l'Iran depuis 2018. Et les Chinois qui aujourd'hui ont un agenda géopolitique et plus un agenda économique. Il y a eu d'autre part un second phénomène. C'est l'irruption, l'organisation des masses africaines par ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. Je m'honore d'avoir participé à ce phénomène avec la grande télévision panafricaine Afrique Média et ses 220 millions de téléspectateurs qui ont conscientisé les masses africaines. C'est l'union des masses panafricaines et l'arrivée du bloc de l'Est qui a pris tête un étau dans lequel occidental qui est représenté par son ventre mou, l'impérialisme français. C'est le résultat de tout cela. Elle a été étudiée par le grand état-major français dès 2015, qui avait publié un rapport à l'usage de l'Élysée. Elle indiquait que le principal ennemi des Occidentaux et de la France en Afrique au cours des 20 prochaines années, ça serait l'alliance du néo-panafricanisme, justement, avec la Russie. C'est à cela que nous avons assisté. C'est cela qui a vaincu l'impérialisme occidental, dont je le rappelle, le ventre mou est l'impérialisme français. Les Français sont les premiers à partir, mais après eux, les Américains avec l'Africom, les Allemands avec la Bundeswehr, les Belges, les Espagnols, etc., vont tous partir la queue entre les jambes. C'est l'heure du grand réveil de l'Afrique. On ne volera plus à l'Afrique les indépendances africaines et la dignité. C'est le temps perdu de l'impérialisme, du néocolonialisme et de l'exploitation.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que la France-Afrique, c'est l'histoire ancienne?
La France-Afrique, on assiste à son agonie. Lorsque s'est élevé le sommet de Montpellier il y a quelques mois, qui voulait revitaliser le projet d'une France-Afrique 2.0, que porte le régime macronien depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, eh bien, il y a un livre qui est sorti qui est un bilan historique de la France-Afrique. Il s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir » et il est sous-titré de la même façon que nous le disons à Afrique Média ou la presse TV. Il dit « pillage, néocolonialisme, coup d'État, massacre, etc. » C'est le bilan de la France-Afrique. L'Empire qui ne voulait pas mourir, il est en train, il est à l'agonie devant nos yeux.
l'histoire sert pour le général de Gaulle avec de la France-Afrique, l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, en 2021-2022, un président Macron et un monsieur Foucault-Arbitre Le Drian, ce sont les architectes de la déchéance française, de ce qu'un autre livre appelle aujourd'hui le déclassement français. Ce déclassement, il est définitif. Il n'est pas ailleurs celui uniquement de la France-Afrique, puisque ce déclassement, il a lieu aussi au Proche-Orient, en Syrie, au Liban. Il a lieu au Pacifique, face au mené de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain tente dans le Pacifique de créer ce qu'on appelle l'OTAN du Pacifique, le Quad. Les Américains ont donc exclu la France. La France, elle est en déclassement partout, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, au Proche-Orient, en Méditerranée, en Asie centrale, au Caucase, bien entendu au Pacifique. C'est la fin de l'impérialisme français.
Oui, Pierre d'Ortiguier, à votre tour, est-ce que vous pensez que le retrait des troupes françaises du Mali est traduit par la fin de France-Afrique?
Oui, en effet, c'est la fin de la France-Afrique. Bien sûr, je ne puis qu'approuver ce que dit Jean-Luc Michel sur le déclassement de la France de façon générale. Je crains, disons, comme Français, étant voyant de près les réactions des ce qu'on peut appeler les élites ou les gens, de façon générale, je crains que cette défaite, cet écroulement plutôt, parce que c'est plus qu'une défaite, cet écroulement de la France-Afrique, enfin, au Mali, n'entraîne justement un ébranlement même du système politique français, c'est-à-dire ne touche même aux assises de la Ve République, laquelle s'était fondée, il faut le dire, sur cette nouvelle politique africaine. Il n'y avait pas que cela. Il y avait des raisons intérieures, mais il y avait également quand même des jalons extérieurs, si vous voulez, à cette construction politique. Je crains que nous ne rentrions dans des troubles en France qui seraient consécutifs, justement, à cette grande défaite qui est ressentie par l'armée, bien sûr, mais qui sera ressentie quand même par beaucoup de milieux économiques. Toute notre puissance atomique, par exemple, venait, de l'exploitation de l'uranium et autres. Alors donc, est-ce que nous serons suivis même par nos partenaires européens? Ce n'est pas sûr. Je crois que la France est non seulement déclassée, mais elle risque, à notre grand malheur d'ailleurs, d'être isolée à l'intérieur même de la politique européenne, voyez-vous. Je crois que, parce que l'Europe ne forme pas un bloc, à mon avis, là-dessus. Je crois que l'Allemagne a ses intérêts particuliers, encore en Russie en premier, et ne nous suivra pas, disons, dans ce naufrage.
Oui. Et Luc Michel, pour terminer, est-ce que vous pensez que cette mobilisation anti-française, qui est très contagieuse justement, car dans les pays voisins comme le Niger ou au Burkina Faso, nous sommes également témoins de cette vague d'indignation à l'égard de la France, est-ce que vous croyez que ça va aboutir?
Oui, c'est même pas une vague de fond, c'est un tsunami qui va emporter l'impérialisme français. Il y a eu au cours des derniers mois des manifestations gigantesques en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso. On annonçait il y a quelques jours les premières manifestations au Tchad contre la présidence française. Ces manifestants, évidemment, ils se sont notamment, au cours des dernières semaines, opposés au déplacement des troupes françaises de Carcassonne par la route, depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso, etc. C'est gigantesque. Les jeunes Africains sont massivement mobilisés contre la France et contre notamment le franc CFA et les manifestations économiques de l'impérialisme français. La France, elle a perdu la guerre, je vous l'ai expliqué. Elle a perdu les esprits et les cœurs, ce qui était le but des guerres coloniales. C'est la rançon des guerres d'Algérie et des guerres du Cameroun. Les populations françaises ne sont plus dupes aujourd'hui. Les populations africaines manifestent mais également, il y a une partie des Français qui a manifesté. Les Gilets jaunes ont manifesté à plusieurs reprises leur sympathie aux populations africaines contre l'impérialisme français. Les politiciens français réagissent par de l'autisme, par de l'arrogance. Ce déclassement français, il est au cœur du débat de la présidentielle française. Lorsque l'on écoute les réactions des partisans de l'impérialisme français, les Zemmour, les Valérie Pécresse, les Macron, les Marine Le Pen, mais aussi Mélenchon, on constate que l'arrogance française répond à une réalité. C'est une forme d'autisme, évidemment, et la France va le payer cher. Je suis d'accord avec le professeur Dortiguier. La France est le seul, les Français, les alliés supposés de la France, notamment l'Allemagne, ils ne visent qu'à une chose, c'est ce qui dans lequel les ont attirés l'impérialisme.
Absolument. Monsieur Luc Michel, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran a toujours soutenu les demandes d'indépendance des pays d'Amérique latine, selon le président Raisi, malgré des sanctions étendues et la volonté de l'ennemi de faire pression sur notre pays. La République islamique d'Iran a été en mesure d'acquérir de bonnes capacités dans divers domaines, y compris les industries pétrolières et gazières. Et nous sommes prêts à transférer nos expériences à Trinité et Tobago, a déclaré le président Raisi, louant l'esprit d'indépendance et de recherche de liberté des nations d'Amérique latine. Lors d'une visite au Qatar lundi soir en marge du 6e sommet des pays exportateurs de gaz, le président Raisi a rencontré le premier ministre de Trinité et Tobago, évoquant l'esprit de liberté et d'indépendance des nations latino-américaines en disant que la République islamique d'Iran a toujours soutenu les revendications de liberté et d'indépendance de toutes les nations du monde contre l'oppression des pays impériaux. Exprimant l'intérêt de l'Iran pour l'élargissement des relations avec Trinité et Tobago, en particulier dans le domaine de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, il a ajouté le président Raisi, à un moment où l'ennemi voulait fermer l'industrie pétrolière iranienne en imposant des sanctions et des pressions, le ministère du pétrole et les acteurs du secteur pétrolier et gazier iranien ont pu atteindre un haut niveau de connaissances et de capacités techniques, malgré les souhaits de l'ennemi, ce qui se traduit par et dans la croissance de l'industrie pétrolière et gazière de l'Iran. Exprimant la volonté de la République islamique d'Iran d'échanger ses expériences avec Trinité et Tobago, le président Raisi a déclaré « La République islamique d'Iran, en particulier sous le 13e gouvernement, a un programme spécial pour élargir les relations économiques et politiques et les interactions avec tous les pays, y compris l'Amérique latine. À cet égard, nous souhaitons améliorer le niveau de nos relations avec votre pays. » Se référant aux remarques du premier ministre de Trinité et Tobago sur les interactions et la coopération technique et commerciale du pays affecté par les sanctions américaines contre d'autres pays d'Amérique latine, le président Raisi a déclaré « C'est la preuve de l'oppression et de l'impérialisme américain qui inclut des pays avec lesquels il entretient des relations normales ». Le président Raisi a souligné « L'expérience de 43 ans de la République islamique d'Iran a prouvé que quiconque résiste à l'oppression peut certainement exercer ses droits ». Le premier ministre de Trinité et Tobago a noté que son pays dispose d'une quantité importante de ressources en hydrocarbures en 10 ans. Trinité et Tobago cherchent à étendre sa coopération et ses relations avec la République islamique d'Iran comme le Venezuela et Cuba. Après l'indépendance du Royaume-Uni, Trinité et Tobago s'est concentré sur le développement de ses industries pétrolières et gazières. Et aujourd'hui, nos sociétés pétrolières et gazières nationales ont de bonnes capacités, mais les sociétés internationales ont toujours une présence efficace dans nos industries pétrolières et gazières, a-t-il ajouté. Il a déclaré que nous avons essayé de diversifier notre coopération et nos partenariats économiques plus qu'avant, tout en ajoutant, nous sommes intéressés à bénéficier de l'expérience et des capacités de l'Iran dans le domaine du pétrole et du gaz. Le chef du conseil exécutif du Hezbollah libanais, Sayed Hashem Safiuddin, a affirmé que notre résistance est populaire, politique, djihadiste, culturelle et sociale. Elle a traduit des modèles importants et sans précédent dans tous les domaines, soulignant que les Américains doivent savoir que si leur pression, leur animosité et leur haine se poursuivent envers les Libanais pour les empêcher de gagner leur pain et d'accéder à leur argent, nous n'aurons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes et de construire notre pays comme les nations doivent être construites. Lors de la réunion des comités de travail dans les établissements d'enseignement à Al-Sharia avec la participation du responsable de la deuxième région sud du Hezbollah, Ali Daoun, et de personnalités de militants, M. Safiuddin a expliqué que nous avons les cerveaux, les capacités qui nous qualifient, si Dieu le veut, avec tout le peuple royal et honorable pour reconstruire un nouveau Liban fort, non soumis, résistant, fortifié, indépendant, capable de préserver sa souveraineté maritime et terrestre, son pétrole et ses ressources en eau, et de garantir le présent et l'avenir de ce pays pour les générations futures. Il a souligné « Nous avons la question de la résistance et l'épine dorsale de toute cette force et de cette capacité. Sans elle, il n'y a pas de place pour nous pour construire un nouveau Liban ou une économie, notant que ce qui empêche les Libanais de construire une véritable économie, ce sont les États-Unis d'Amérique. » Les sources diplomatiques citées par la télévision yéménite Al-Masira ont révélé le contenu de la proposition remise par la délégation nationale de Sanaa à la partie russe. La vision de Sanaa comprend plusieurs points, dont, entre autres, l'ouverture de l'aéroport de Sanaa et des ports de Hudaïda pour assurer la liberté de mouvement et le passage des biens et des marchandises sans aucune restriction. L'objectif principal de cette vision est d'alléger les souffrances du peuple yéménite et de créer l'atmosphère pour mettre fin à la guerre et entrer dans un processus politique sous les auspices des Nations Unies, a-t-on ajouté de même source, et de poursuivre cette proposition à embarrasser les forces de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, affirmant que cette dernière ne cherche pas une solution, mais elle cherche plutôt à aggraver la souffrance humaine du peuple yéménite. L'Arabie saoudite mène depuis mars 2015 une guerre d'agression sans merci contre le Yémen qui a causé la mort des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'Organisation des Nations Unies. La communauté internationale condamne l'expulsion des Palestiniens de leur maison à Al-Quds. La communauté internationale a exprimé sa préoccupation et sa condamnation de l'expulsion par les forces d'occupation sionistes de familles palestiniennes de leur maison à Al-Quds occupée, tout en appelant à mettre fin aux pratiques sionistes. L'Union européenne a indiqué que la violence des colons et les provocations irresponsables augmente la tension et doit s'arrêter. De son côté, le ministre cubain des Affaires étrangères a condamné fermement l'expulsion de familles palestiniennes de leur maison à Al-Quds occupée, signalant que ces expulsions sont en violation de la charte des Nations Unies. Les ministères des Affaires étrangères de Jordanie, d'Égypte, d'Allemagne et de France sont appelés à la protection des habitants palestiniens de Sheikh Jarrah et Silvan. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ENRWA, a appelé l'entité sioniste en tant que puissance occupante à assurer la protection des civils, y compris les réfugiés palestiniens, à mettre immédiatement un terme à toutes les expulsions et démolitions en Cisjordanie, y compris à Al-Quds Est, appelant au calme et à prendre des mesures actives pour désamorcer la situation. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.